Et donc, après ces points d'information, je vais demander à Monsieur Darbois de nous faire le rapport sur la situation de la ville en matière de développement durable. Monsieur Darbois.
Merci, Monsieur le maire. Il me revient donc de présenter le rapport sur la situation de la ville de Metz en matière de développement durable et solidaire. C'est une obligation pour les villes de plus de 50 000 habitants. Il doit être axé sur les 5 finalités de développement durable inscrites à un article du Code de l'environnement. Je les rappelle: lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, épanouissement de tous les êtres humains, cohésion sociale et solidarité, développement, production et consommation responsable. L'an dernier, le plan climat de la ville de Metz a été validé par la Convention des maires européens et différentes certifications, vous l'avez dans le catalogue, trophées ou labels, soulignent l'engagement de la collectivité en faveur du développement durable et solidaire. Les principaux résultats obtenus par la mise en œuvre de son plan d'action en faveur du développement durable sont déclinés dans le présent rapport. Sa rédaction s'appuie sur les 3 axes que je rappelle d'orientation stratégique de notre agenda 21. Préserver l'environnement et les ressources pour les générations futures, développer une ville harmonieuse, le vivre ensemble, être une collectivité exemplaire. Vous dire aussi, chers collègues de la majorité, que nous partageons ce rapport. Autrement dit, chacun doit avoir sa part, prendre sa part, à sa part, dans cet enjeu essentiel qu'est l'écologie urbaine. Ça s'appelle la transversalité, et j'en dirai un mot plus loin. Vous dire aussi que tout le monde comprend parfaitement le rôle prépondérant, essentiel, incontournable de l'adjoint aux finances. Il est dans son rôle lorsque, de concert avec vous, Monsieur le maire, il se mêle de nos délégations et nous demande, nous oblige à nous serrer de plus en plus la ceinture, puisque l'argent, paraît-il, serait encore et toujours le nerf de la guerre. Mais en matière de transversalité, au profit du développement durable et solidaire, nous avons encore quelques marges de progrès à réaliser, Monsieur le maire, alors que c'est le nerf de la vie d'écologie. Le développement durable et solidaire doit être, comme les finances, au cœur de toutes les décisions que vous prenez, de toutes les décisions que nous prenons, et notamment lorsqu'il s'agit de lutter contre le dérèglement climatique et diminuer beaucoup plus que nous tentons de le faire aujourd'hui nos émissions de gaz à effet de serre. À chaque fois que nous prenons une décision, nous devons nous demander non pas seulement combien ça coûte, combien ça rapporte, quel retour sur investissement, mais d'abord quel impact sur l'environnement. Penser global, agir local est plus que jamais la politique que nous devons tous appliquer, et cela hors des clivages gauche-droite devenus absurdes, hors des extrêmes bien sûr. En clair, nous devons aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est le climat et les déplacements obligés des populations dans le monde. Point barre. Et s'il faut la révolution, j'en suis. À la veille de la COP21, et malgré la défection évidente de l'écologie politique en France, ici en Lorraine en particulier, je parle de la défection d'Europe Écologie Les Verts, perdue dans ces querelles de personnes que nous sommes quelques-uns à fuir. Dommage, car les Verts ont su un temps bouger les lignes. Ici, ailleurs, n'est-ce pas Marianne? Bref, à la veille de la COP21, nous devons accélérer le mouvement, faire plus pour préserver l'humanité, et cela doit se passer partout. Alors, quelques pistes pour le nouvel agenda 21 que nous devons élaborer prochainement, puisque celui-là se termine. Au bout de 4 ans, ça se termine et nous devons présenter un nouvel agenda 21. J'oserais dire conforter la mission développement durable et solidaire de la ville de Metz. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux. Raviver la transversalité. Donner une fonction aux bâtiments délaissés plutôt que d'en construire de nouveaux. Favoriser encore plus la rénovation énergétique des logements. Mais aussi oublier un peu que les sous, c'est la priorité. Sommes-nous à ce point révolutionnaires lorsque nous clamons que la priorité, c'est la vie ? Aujourd'hui, il est probable que notre survie passe par les actions, parfois impopulaires, que nous saurons mettre en place aujourd'hui, et c'est urgent. Bien sûr, le rapport est soumis aux avis des uns et des autres. Je vous remercie.
Merci. Merci, Monsieur Darbois. Alors, il y a beaucoup d'inscrits, mais pour des temps relativement brefs. Alors, je donne la parole à Monsieur Philippe Cazin pour 1 minute.
Je vais essayer de tenir dans une minute. Donc, première chose, quand même, je me permets de répondre, Europe Écologie Les Verts ne se porte pas aussi mal que M. Darvois le dit. Il manque dans ce rapport une rubrique, à mon avis, concernant l'artificialisation des terrains, c'est-à-dire le bétonnage de nombreux terrains. Je suis étonné du nombre de chantiers à venir, en cours ou se terminant, qu'il s'agisse de la construction de logements, de commerces ou de bâtiments publics. Le choix a été fait dans cette ville de laisser toute liberté à des promoteurs pour construire des logements nouveaux et donc bétonner des terrains, alors qu'une rénovation des logements anciens ne fait pas partie des pistes envisagées ou très peu. Qu'il s'agisse de logements anciens ou neufs, il y a potentiellement à court ou à moyen terme un excès d'offres par rapport à la demande. Excès dû aujourd'hui au départ des militaires, mais que viendra aggraver demain la suppression d'autres emplois publics à la mairie, à la région, dans les directions régionales de l'État, sans oublier la disparition programmée de tout un pan de l'université à Metz. Que faire alors de tous ces logements et bâtiments vides ? En ce qui concerne le commerce, concernant Waze, les commerces du centre-ville ou ceux de Mimus, comment tous ces commerces pourront-ils tous subsister face à un pouvoir d'achat des consommateurs qui stagne ? Que faire ensuite de ces friches commerciales qui apparaissent déjà ici ou là ? Metz Métropole envisage de construire un nouveau siège dans le quartier de l'Amphithéâtre, sans doute pour asphyxier encore un peu plus les gamins qui jouent dans le parc de la Seille et qui profiteront pleinement des gaz d'échappement provenant du parking de 1200 places de Muse. Et quid de l'actuel siège de Metz Métropole ? Que deviendra-t-il ? Une friche de plus ? Qui en voudra si ce bâtiment présente effectivement tous les inconvénients qui sont évoqués pour le quitter ? Fallait-il construire un nouveau bâtiment universitaire pour l'UFR Mimes sur le Technopole, alors que l'Université de Lorraine dispose déjà, d'après ses propres chiffres, de 100 000 m² de trop et que de nombreuses formations messines vont disparaître à moyen terme au profit des sites nancéens ? Bref, qu'est-il prévu pour enrayer, puis stopper l'artificialisation des sols et recréer des espaces naturels ? Merci.
Merci, monsieur, Madame Singer. 2 minutes, s'il vous plaît.
Je vous remercie. Monsieur le maire, j'ai lu avec attention, effectivement, le rapport de la ville. Alors, si, évidemment, j'apprécie beaucoup les efforts de notre ville en termes de transition énergétique et de préservation de l'environnement, comme, par exemple, l'utilisation de la biomasse pour le chauffage ou la réhabilitation de la Seille, par exemple, bien évidemment, la rénovation thermique et énergétique des bâtiments publics, même si cette rénovation, finalement, nous a quand même coûté 8 millions d'euros depuis 2008 pour, effectivement, limiter la consommation des bâtiments publics, alors que ça ne concerne que 3% des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, quand je lis les termes abordés par ce rapport, plusieurs sujets absents me viennent en tête. J'aurais, par exemple, aimé voir aborder le thème de la performance et pratique en termes de tri sélectif. Or, à aucun moment, celui-ci n'apparaît dans le rapport. Pourquoi ? Pire, pour aller plus loin, le mot « tri » n'apparaît même pas dans les 27 pages du rapport. Il me semble pourtant que Metz est une très bonne élève. Nous aurions pu, par exemple, avancer nos bons chiffres en la matière et, comme Metz veut effectivement être exemplaire, se lancer encore des défis, et là je rejoins M. Darbois, pour aller plus loin en la matière, et ça aurait eu vraiment de la gueule. Vous le savez, c'est souvent la dernière ligne droite qui est la plus difficile. Aussi, ce soir, je souhaite vous faire 5 propositions. Nous avons en effet beaucoup de choses à dire, par exemple, et à faire sur l'absence de poubelles de tri en ville. On pourrait, par exemple, accompagner ça d'une campagne de sensibilisation sur le terrain, dans la rue, avec les usagers. À savoir qu'il y a notamment, après les élections régionales, il y a une association qui va être mise en place, notamment avec des citoyens qui, justement, aujourd'hui, pratiquent le tri au centre-ville et le font très souvent la nuit, justement, parce qu'il y a pas mal de choses qui traînent dans les rues. Voilà. Alors, nous avons également, pour une deuxième proposition, nous avons un sérieux travail également à faire, car de nombreux médecins ont des difficultés d'utilisation du PAV absolument inadaptées à l'usage. Avez-vous déjà essayé de faire, par exemple, entrer des sacs poubelles dans une ouverture de 25 cm x 15 ? Vous souhaitez aujourd'hui que les places de parking soient supprimées devant la cathédrale, mais est-ce pire que de voir tous les jours des sacs poubelles laissés à l'abandon devant ces points d'apport volontaires, inadaptés ? Troisième proposition, je pense également que traiter donc le problème de la dépose sauvage de poubelles en dehors des heures de ramassage pourrait rendre le centre-ville plus harmonieux. Que ce soit, par exemple, en face d'un café qui s'appelle L'Airiche, près du cinéma Place Saint-Jacques, Place de Chambre ou en bas de la rue du Faisan, en bas de la rue Sainte-Marie également, cela donne sincèrement une très mauvaise image et ne permet pas de dire que Metz est une ville propre et qui contribue au recyclage. Il conviendrait donc de traiter ce problème une bonne fois pour toutes, comme je l'ai déjà vu dans d'autres villes, avec évidemment des verbalisations, mais que ça ne soit pas que des intentions, que ce soit vraiment réel. Quatrième proposition,
s'il vous plaît.
Comme je le disais au Conseil de Metz Métropole dernièrement, il faut impérativement faire passer le message à nos concitoyens que non, votre geste n'est pas inutile. Oui, le tri est bien fait. Venez dans nos centres de tri, pourquoi pas organiser que les citoyens puissent effectivement y aller pour voir comment ça fonctionne. Le zéro déchet, zéro gaspillage, c'est 100% croissance hein, pour tout le monde, car le tri, moi je le répète, c'est vraiment l'affaire de tous. Et enfin, dernière proposition, en page 11 du rapport, vous indiquez que l'achat de produits recyclables entre dans les habitudes des services municipaux. Alors, question, sont-ils ensuite eux-mêmes recyclés ? Moi, je souhaite donc également qu'on fasse un état des lieux plus vaste sur les pratiques au sein de notre collectivité concernant le tri. J'espère donc que ces quelques propositions seront attirer votre attention, monsieur le maire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur Gourlot.
Merci, monsieur le maire. Donc, sur ce point, Metz semble être exemplaire dans l'obéissance à l'agenda 21 et la mise en place des normes et des contraintes imposées par ce concept de développement durable. Metz, qui avait su par le passé s'inscrire comme pionnière dans l'écologie urbaine avec Jean-Marie Pelt et l'Institut d'écologie, nous a déçus en perdant son indépendance et surtout cet état d'esprit de ville innovante. L'écologie se joue à l'international. Nous sommes confrontés à des problèmes écologiques mondiaux, à une culpabilisation au quotidien, mais aussi à un grand non-sens et à beaucoup de contradictions, comme par exemple la préservation de la biodiversité indiquée dans le rapport. Mais après l'invasion du frelon asiatique, il n'y a pas de petit sujet. Hein. Après l'invasion du frelon asiatique qui pointe le bout de son dard, si j'ose dire, dans nos régions, nous sommes confrontés, j'ai lu dans la Républicain Lorrain, à la coccinelle asiatique, introduite en 92, qui ravage la coccinelle européenne, rouge à 7 points. Y a-t-il menace à Metz ? Y a-t-il un plan de lutte contre cette coccinelle invasive ? Hein. Pareil, il y a le même cas en Angleterre, qui est les écureuils gris qui tuent nos roues. Les rouquins, ils n'ont jamais eu de chance. Donc, la finalité 5 de cet agenda prône la consommation responsable. Est-ce vraiment responsable de paver les voies de votre divin métis avec des matériaux importés de Chine quand on peut s'approvisionner en France ? Je croyais que l'écologie, c'était les circuits courts. Je ne pense pas de faire venir des pavés par conteneurs et par bateaux et des milliers de kilomètres, ça soit vraiment écolo. De plus, depuis l'été, les travaux de réparation de ces voies n'en finissent plus. Exemple, au moyen pont, encore en réflexion depuis une semaine déjà. C'est affligeant de voir tous ces moyens mis pour réparer ces dégâts après seulement 2 ans d'activité, quand le reste des voiries est laissé à l'abandon, alors que c'est une obligation de les entretenir. La COP21, qui dans les faits devrait se nommer une énième COP21 du président Hollande, qui s'agit d'ailleurs dans tous les sens à l'approche des élections, va participer à l'aggravation de ce que vous dénoncez avec les 20 000 participants attendus, les déplacements par jet de tous nos gouvernants, enfin du monde entier, la pollution, les déchets, le blocage de Paris, enfin... Tout ça, c'est pas très écolo non plus. Dans les faits, nous savons que des enjeux économiques défendus par certains sont la cause de la destruction de la planète. Alors, comme le mythe de Sisyphe, nous aurons beau remonter notre rocher qui va redescendre sans cesse, etc., tout sera saboté par des trusts puissants. Tant qu'on ne luttera pas, comme c'était dénoncé jadis naguère, si j'ose dire, par François Hollande, qui visait une certaine forme de finance, par Dominique Gros, bien sûr, mais repris par François Hollande, bien sûr, une certaine forme de finance. Donc attaquons-nous aux vraies causes, au profit destructeur de l'humanité, et peut-être commencerons-nous à enfin trouver une ébauche de solution. Je voudrais revenir aussi sur un petit point, sur la page 23 du rapport, pour vous demander le lien entre la tête de chapitre, renforcer les liens intergénérationnels, et les 737 places d'hébergement d'urgence supplémentaires pour arriver à 1730 places au total, du fait de l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile. J'ai l'impression que les demandeurs d'asile, on les met à tous les rapports, à toutes les sauces, il faut absolument qu'on les place. Bref, ce rapport est à l'écologie ce que le sirop de Mirabelle est à la liqueur de Mirabelle. Il en a la couleur, mais là, c'est pas le goût et la saveur. Merci.
Merci, monsieur le maire. En préambule, je voudrais dire à M. Darbois que j'ai bien aimé son introduction. Je ne suis pas sûre qu'il soit entendu par tout le monde. Ah, ben j'en aurais... Non, ben voilà, il me laisse tout. Voilà, c'est bien, parce que j'en ai pour un tout petit peu plus. Alors, le rapport du développement durable doit permettre aux collectivités locales d'analyser les impacts de chacune des actions engagées sur son territoire. Action dont l'objectif premier... c'est la lutte contre le changement climatique, donc la réduction des gaz à effet de serre. Mais pour juger de la pertinence de ces actions, encore faut-il nous communiquer les résultats. Or, ce rapport du développement durable de la ville de Metz en est totalement dépourvu. Pourtant, ces résultats, vous les avez, vous les connaissez, ils sont dans le dernier plan climat élaboré par la ville de Metz et que vous avez envoyé à la Convention des maires. Document essentiel que vous avez malheureusement oublié de porter à notre connaissance, oubli malheureux, j'ose le croire. Alors naturellement, je me suis procuré ce plan climat et je dois avouer qu'en matière de développement durable, vous m'inquiétez sérieusement. Quelques chiffres, vos chiffres. Mise en place du plan vélo, pratiquement 9,5 millions de dépensés, 508 tonnes de CO2 d'économisés, soit un impact de 0,08% sur les émissions globales de la ville de Metz. Amélioration de l'éclairage public, pratiquement 10 millions de coûts, 214 tonnes d'économisés, soit un impact de 0,04%. Alors pour ce qui concerne cet éclairage urbain, c'est un très mauvais chiffre lié au fait que pour placer des ampoules à basse consommation, il faut la plupart du temps changer les candélabres, c'est ballot, mais c'est comme ça, parce que leur starter n'est pas adapté à ces nouvelles ampoules. Alors pourtant, c'est vos services techniques qui le disent. Pourtant, des solutions plus simples et moins coûteuses existent. Ce sont les installations de régulateurs variateurs qui peuvent générer 20 à 40% d'économie d'énergie en gardant le matériel d'éclairage préexistant, naturellement, quand il est en bon état. La rénovation thermique des bâtiments municipaux, c'est un coût de 17 millions d'euros, 832 tonnes d'économisées, soit un impact de 0,12%. Je vous fais grave du mauvais sketch de la piscine notaire et je voudrais quand même vous donner une toute petite explication, vous expliquer qu'entre un bilan énergétique et un bilan carbone, ce n'est pas la même chose. Vous nous parlez des bilans énergétiques, de la diminution de la consommation des factures, c'est une chose. Le bilan carbone, il faut l'expliquer en haut lieu, c'est autre chose. La mise en place des zones 30. Toutes les études le montrent. L'implantation des zones 30 en ville a pour conséquence une augmentation de la consommation des véhicules, donc une augmentation de la production de CO2 liée à la circulation. Alors, si les zones 30 augmentent la sécurité et fluidifient le filtre, si, on peut aller voir les études de l'ADEME, c'est vrai, le trafic, pour autant, elle ne participe pas à la diminution des gaz à effet de serre. Et il est juste et nécessaire de le dire. La mise en place de Métis, le coût, c'est 230 millions d'euros. 370 tonnes d'économisées, soit un impact de 0,02% des émissions de gaz à effet de serre sur la ville. Et quand on passe à Metz Métropole, ça se limite à 0,01. Des résultats plus que médiocres, faute non pas de ne pas avoir écouté votre opposition, mais de ne pas avoir pris en compte ce que les services techniques vous disaient en 2011. Tout était pourtant écrit dans le plan climat de Metz Métropole. Et je le cite, les gains d'émissions de gaz à effet de serre liés à Métis sont
ainsi... Vous avez déjà dépassé d'une minute et encore M. Wendling.
Non, il me laisse son temps. Évalués à 370 tonnes. La modeste portée de ce chiffre étant liée à la construction des infrastructures accueillant le transport en site propre, 80% étant liée uniquement au béton et à des hypothèses peu ambitieuses de report modal dans le dernier PDU de 2006. Tout était dit dans cette phrase. Nous pouvions faire donc l'économie d'au moins 30 000 tonnes de CO2 en réfléchissant un peu avant d'agir dans la précipitation. Nous aurions pu revoir aussi le PDU avant la mise en place de Métis plutôt qu'après, comme on est en train de le faire. C'est juste une question de bon sens. La centrale à biomasse, 55 millions d'euros, 757 000 tonnes d'économisées, soit un impact de 3,1%. Alors c'est certainement le meilleur résultat de cette liste, mais à quel prix? Sous des postures prétendument, et j'oserais même dire faussement écologiques, vous participez, comme tous les gros projets qui ont vu le jour ces dernières années, au saccage de nos forêts. Et je crois que vous le savez pertinemment bien, j'espère que tout le monde a regardé le document sur France 5 dernièrement qui était très évocateur à ce sujet. Nous n'avons pas assez de bonne biomasse forestière, proche ou lointaine, pour alimenter tous les projets. Mais vendre l'électricité produite à EDF à un tarif préférentiel, la tentation était bien trop grande pour que vous puissiez y résister. Remplir les caisses de l'UEM, c'est remplir les caisses de la ville, et tant pis pour les générations futures qui auront des forêts en mauvais état, sûrement et plus beaucoup de biomasse pour alimenter les centrales.
Merci, quoi, madame.
Non, je termine, monsieur le maire. C'est un
madame,
rapport.
C'est madame Zimmermann qui a fait l'ordre du jour et la longueur des interventions.
J'avais demandé 5 minutes.
Ben oui.
J'avais demandé 5 minutes, je continue.
Fait l'ordre du jour,
madame.
Madame,
c'est vous qui avez demandé la longueur d'inter... Ah, si. Non, madame.
Je continue. Monsieur le maire, on va pas commencer.
Madame, veuillez conclure, s'il vous plaît.
Non.
Madame, je veux bien répondre à ça. Madame, s'il vous plaît. Madame, ce recours, permettez-moi de vous le dire, madame, n'est pas suspensif. En aucune façon. Et donc, il y a eu une réponse de notre avocat qui est envoyée en 2014. Vous n'avez toujours pas répondu. Oui, bah oui, madame, vous parlez de recours. Alors, si c'est vous qui l'avez déposé, il n'y a toujours pas... Alors, si ce n'est pas vous, madame, je réponds pour celui qui l'a déposé. Ce recours n'est pas suspensif et donc le règlement intérieur est applicable. Vous êtes présidente, vous nous avez donné la liste des intervenants et on a fait un calcul au prorata. Donc, vous avez déjà dépassé sérieusement. Et maintenant, merci de conclure, madame. Merci de conclure, madame. Vous avez dépassé déjà de plus de 3 minutes. Madame, on va appliquer le règlement intérieur, parce que ça ne peut pas durer comme ça indéfiniment. Vous répondez simplement au temps qui est demandé par la présidente de votre groupe.
Je n'ai rien demandé.
Mais madame, vous avez envoyé un message.
Pour donner les noms.
Ça correspond.
Ça correspond à ce qu'on m'a envoyé comme temps de parole.
Voilà. Eh bien sûr, parce que la réunion des présidents à laquelle vous n'étiez pas.
Monsieur le maire.
Oui, je vous écoute.
Monsieur le maire, je pense que tout le monde a la liberté de s'exprimer et pour le moment, je pense qu'il est quand même un petit peu dommage que vous limitiez les temps de parole alors que ce n'est pas forcément, j'irais...
Chère madame,
oui,
vous êtes parlementaire
oui,
et vous m'expliquez qu'il ne faut pas limiter les temps de parole,
oui.
Mais ce n'est pas croyable à croire que vous n'avez jamais mis les pieds à l'hémicycle. Vous savez très bien que les temps de parole sont limités dans toutes les assemblées démocratiques. Dans notre règlement intérieur, il y a une conférence de présidents. Permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi. Cette affaire de recours ne tient pas debout parce que le recours n'est pas suspensif.
C'est pas moi qui l'ai fait.
Eh bien, madame, je n'ai pas dit que c'était vous. Bon, j'explique. Vous venez de me parler de ce recours. Ce recours n'est pas suspensif. Depuis 2014, notre avocat a envoyé ses conclusions et vous êtes incapable, celui qui les a, qui a présenté ce recours, et vous invoquez ce recours de M. Lebeau, dont je ne sais toujours pas s'il est ou non membre de votre groupe.
Bon,
permettez-moi de vous le dire.
Écoutez,
alors,
ça, c'est pas
je
votre
vais
problème.
Appliquer, madame, le règlement intérieur comme à l'Assemblée.
Bon,
madame, je n'ai pas terminé à vous répondre. Vous me dites, madame, vous êtes présidente d'un groupe. Vous êtes responsable des demandes qui sont faites. Il y a une réunion des présidents qui est prévue au Conseil. Au règlement intérieur, on applique le règlement intérieur. Aucune décision de justice ne permet, en attente d'une décision de justice, le règlement n'est pas suspendu, il est applicable et on va l'appliquer. Parce que ce que vous me dites, madame, est proprement incroyable. Toutes les assemblées démocratiques du monde prévoient des temps de parole de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et vous devriez le savoir, puisque vous êtes parlementaire.
Non, mais attendez, les temps de parole à l'Assemblée nationale...
On perd du temps.
On a... Non, mais attendez. Pendant les débats, on n'a pas des temps de parole qui sont limités par le temps.
Dans les communes.
Excusez-moi. Quand on aborde un texte, vous n'avez pas des temps de parole, monsieur le maire. Vous avez un temps de parole global, OK,
oui,
mais simplement, imaginez, monsieur le maire, quand même... Non, mais, soyez un tout petit peu compréhensif.
C'est ce que j'essaie de faire.
Non, mais attendez, je pense qu'on n'a pas envie, ni vous ni moi, de créer un incident.
Non.
Bon. Donc, je crois vraiment que limiter sur des sujets de ce type-là à un groupe 3 minutes, je pense que c'est quelque part quand même, je dirais, pas très correct.
Madame,
parce que
je laisse
pense
pratiquement
que c'est
le double
monsieur,
avant d'intervenir.
Monsieur le maire, je crois que c'est un sujet très important. C'est un sujet, d'ailleurs, il est tellement important que votre président de la République va être le grand patron de la COP21, notre président, si vous voulez, le président de la République française. voilà, va être le grand chef de la COP21. Donc, je pense, si vous voulez, que sur un sujet pareil, j'aurais souhaité vraiment que vous soyez un tout petit peu plus indulgent.
Madame, je vais vous répondre.
Dès le début, un incident.
Madame, je vais vous répondre. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un sujet important. Je vous suis 100%. Et si vous m'aviez fait la grâce, comme présidente du groupe de la droite et du centre, de venir au moins une fois en réunion des présidents de groupe pour organiser le débat et me dire ce que vous êtes en train de me dire maintenant, à savoir que vous considériez que ce rapport est très important, je me serais fait un plaisir d'inscrire le temps que vous vouliez, madame. Malheureusement, je n'ai pas eu la joie de vous voir et vous n'avez pas eu l'élégance de m'indiquer que vous crouviez... Pardonnez-moi, madame, je vous réponds. Une seconde, s'il vous plaît. Vous n'avez pas eu l'élégance de m'indiquer que vous trouviez que ce sujet était important, premièrement, et que, deuxièmement, vous souhaitiez un temps de parole plus long. Et je me serais fait un plaisir de vous l'accorder. Mais hélas, madame, je ne vous vois pas et vous n'indiquez pas et vous dites toujours de la même façon que c'est un recours que vous n'avez pas posé, premièrement, mais qu'en même temps, c'est un recours qui est posé tant qu'il n'y a pas une réponse. Madame, je vous expliquerai, vous, c'est vous qui faites la loi. Et j'ai vérifié, madame, permettez-moi de vous le dire, la loi que vous avez faite, madame, en tant que parlementaire, eh bien, un recours qui n'est pas déposé en urgence, eh bien, actuellement, madame, ce recours, il n'est pas suspensif et notre règlement intérieur est applicable et le règlement intérieur prévoit de limiter le temps de parole. Et donc, madame, je vous demande, si vous voulez bien, parce que vous me demandez de ne pas faire un incident, il n'y en a pas d'incident, je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous dites. Faites-moi la grâce, s'il vous plaît, de venir ou de vous faire représenter à une réunion des présidents de groupe de façon à ce que nous puissions organiser le temps de parole dans cette Assemblée. Madame, bah, s'il vous plaît, si jamais il appartient encore à votre groupe, dites-lui parce que je ne le sais pas. Hein? Permettez-moi, madame, de vous demander, s'il vous plaît, avec déférence, si vous vouliez bien, parce que ça fait quand même maintenant plus d'un an et demi que nous sommes élus à cette nouvelle Assemblée, j'aimerais que vous veniez, vous ou votre représentant, organiser le temps de parole, ne serait-ce que pour nous dire les points que vous trouvez importants, puisque vous venez de m'indiquer là. Et je le comprends que vous êtes très concerné par l'environnement, vous me l'auriez dit, j'aurais bien entendu inscrit davantage de temps au bénéfice de votre groupe et on se ferait un plaisir de vous écouter. Seulement, je ne peux pas organiser cette assemblée si vous ne me faites pas la grâce, s'il vous plaît, madame, de venir de temps en temps, s'il vous plaît, je vous demande bien humblement, participer à la préparation de ces séances. Ça nous ferait du bien, madame, et on serait heureux de vous donner satisfaction sur toute la ligne, mais ça nous permettrait de nous organiser.
Bon. Monsieur le maire, excusez-moi, je répondrai très brièvement. Je vous ai dit que tant que le recours ne serait pas donné, mais il est clair, le résultat ne serait pas acquis, je ne viendrai pas. Parce que je considère que, pour le moment, j'attends les réponses. Alors, par contre, monsieur le maire, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez m'envoyer les propos de votre avocat.
Ah ben, je vais vous envoyer bien volontiers.
Ben, non, mais attendez, de façon...
D'abord, je vais vous envoyer le règlement intérieur qui est applicable.
Non, mais je l'ai, vous le règlement. Pas. Je l'ai, le règlement.
Bien, ben, écoutez,
que
madame...
Que je n'ai pas voté, d'ailleurs.
Mais madame, voilà. Ça peut arriver. Ben, moi, non, j'applique beaucoup de lois que je n'ai pas votées, madame. Vous le savez bien.
C'est regrettable. Parce que, je vais vous dire, il faut toujours obéir à la loi.
Exactement. Nous les appliquons, toutes les lois, madame. Celles que vous avez votées, celles que vous n'avez pas votées, on les applique tous, parce qu'on est dans la République.
Et, ben voilà.
Et donc voilà, le règlement intérieur, c'est comme ça. Le recours n'est pas suspensif. Je vous enverrai le dernier mémorandum de notre avocat sur le sujet, bien volontiers. Je pense que ce serait quand même utile, j'en profite, hein, ce serait quand même utile que l'opposition... Je veux dire, madame, vous avez quand même la présence de M. Cambianica, la présence de M. Hassan Lekadir, la présence de Mme Grollet qui vient à ces réunions pour préparer nos assemblées. Et ce serait bien, si j'avais su, madame seulement, si j'avais su que vous attachiez de l'importance à ce rapport, on aurait inscrit plus de temps, madame. Je me serais fait un plaisir de vous donner satisfaction. Hélas, je ne le savais pas. Comment deviner que vous attachez autant d'importance au rapport sur l'écologie? Je me suis fait un plaisir, mais je ne peux pas le deviner, madame. Vous me le dites en séance, c'est dommage, parce que vous êtes présidente d'un groupe, et je serais très intéressé à avoir vos intentions auparavant. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, madame, vous pouvez conclure, s'il vous plaît.
Je termine, monsieur le maire. Donc, je vous disais, je vous parlais de l'UM, et je vous disais que les compensations financières immédiates ne font jamais bon ménage avec l'écologie durable qui l'est par vocation. Et je dois dire que vous ne manquez pas d'un certain cynisme en signant la charte de l'arbre, car avant de défendre la place de l'arbre en ville, vous feriez mieux de défendre la place de l'arbre dans son milieu naturel, la forêt. Bref, pour toutes ces actions phares de la ville de Metz, on a dépensé un peu plus de 320 millions d'euros pour un impact de 3,5% sur les émissions globales de la ville qui se situe, pour information, on y, à peu près à 1,8 million de tonnes CO2. Alors nous pouvons naturellement rajouter quelques autres actions menées, mais nous restons loin, bien loin des 20% de réduction de gaz à effet de serre et à des années-lumière des 40% qu'on va nous demander pour 2030. Alors il existe pourtant un levier d'action qui vous permettrait d'atteindre cet objectif, c'est la lutte contre la précarité énergétique, donc la rénovation thermique. 43% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à la consommation d'énergie de logement. C'est là qu'il faut aller chercher les économies d'énergie. Et là encore, je trouve que vous faites preuve d'un certain cynisme. Car non seulement vous fanfaronnez dans ce rapport en nous expliquant que le nombre de personnes en précarité énergétique aidées par le CCAS a plus que doublé, alors même que c'est une diminution de ce chiffre que nous aurions préféré observer. Et je vous rappelle au passage que l'instauration de votre taxe sur l'électricité participera largement à cette augmentation de la précarité. Mais en plus, et contrairement à ce que vous avez déclaré à la presse, rien n'est prévu pour améliorer les logements des particuliers. Et pour vous en convaincre, pour s'en convaincre, il suffit de lire le contrat plan État-région. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas lu, et je suis sûre qu'il est nombreux, je vais vous dire ce qui concerne ce qui est écrit en ce qui concerne le volet de transition énergétique et écologique. La ville n'a pas pu, à ce jour, faire inscrire de projets structurants, mais elle se réserve l'opportunité d'en proposer aux cofinanceurs à l'occasion de la revoyure prévue en 2017, comme par exemple la montée en puissance du projet de plateforme énergétique pour les logements privés. Nous sommes en pleine COP21 et la ville n'a rien prévu jusqu'en 2017. C'est lamentable, c'est juste lamentable. Quand je vois ce manque d'ambition en la matière et l'absence de bon sens dont vous faites preuve dans les actions mises en route, votre vision à court terme et cette incapacité à évaluer les conséquences de vos choix, moi je finis par penser comme Yves Paquelé quand il écrit « L'humanité disparaîtra, bon débarras », c'est peut-être effectivement le seul moyen de sauver la planète. Alors c'est sûr que l'humanité disparaîtra un jour, mais il serait dommage que cette disparition ne soit avancée à cause de décisions hâtives et d'anticipations mal évaluées. Le développement durable, il est nécessaire, il est possible, il est même souhaitable, ne serait-ce qu'en termes de coûts pour la collectivité. Il est de notre devoir d'élus et de citoyens de le rendre opérant ici et maintenant. Je vous remercie.
Merci madame. Madame Molinet.
Monsieur le maire, je vous remercie. Alors je voudrais tout d'abord remercier aussi le service du développement durable qui effectivement est composé de trois personnes principalement, Monsieur Fanauer, enfin, Monsieur Rogowitz en premier lieu, Monsieur Fanauer et Monsieur Schwartz sont des personnes fiables, sérieuses, très engagées. Et qui effectivement sont de vrais collaborateurs sur lesquels je peux compter. Et je pense que pour le prochain agenda 21, il faudra vraiment conforter effectivement ce service. Ce serait très important. Par ailleurs, pour ce qui concerne la biodiversité dont j'ai la charge, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans le prochain agenda 21 pour ce qui concerne la présence de la nature en ville. Je pense qu'aussi, on attache peut-être trop... on se focalise trop sur uniquement le CO2 et que les arbres en ville ont d'autres fonctions très importantes. Par exemple, l'ombre des arbres empêche la synthétisation de l'ozone au sol. On sait que l'ozone est un véritable poison, l'ozone tue. Hein. Il fragilise les personnes... âgé, il peut aller jusqu'à tuer. L'ombre des arbres sur les capots des voitures empêche également des évaporations de vapeurs d'essence qui sont très toxiques. Et par ailleurs, les arbres sont non seulement procurateurs d'ombre, mais également ils nettoient totalement l'air des villes. Mais par contre, il faut des experts pour savoir quel type d'arbre, quel type d'essence il faut planter pour lutter contre certains types de pollution. Et là, je suis en train de découvrir effectivement beaucoup de choses, parce que je ne suis pas une spécialiste et je suis en train de lire beaucoup de choses sur ce sujet. Je pense que par exemple, pour des nouveaux quartiers, de nouveaux aménagements urbanistiques, il faudrait se donner les conseils d'experts pour savoir quel type d'essence planter, également à quelle distance des habitations, parce qu'on a fait des erreurs jusqu'à présent, on a planté certains arbres trop près, ça nous pose des problèmes. Donc il faut savoir à quelle distance les planter, dans quel sens, pour que ça fasse climatisation naturelle sans que ça enlève trop la lumière. Et par exemple, c'est un tout petit exemple, mais on sait que les conifères sont plus appropriés que les feuillus pour débarrasser l'air des particules fines. C'est un tout petit exemple. Et donc, je pense qu'il faut un expert absolument dans les nouveaux projets d'urbanisme de la ville pour décider de la plantation d'essence et où on les plante et comment on les plante. Voilà, je pense qu'il faut aller plus loin sur ce sujet. Et je vais m'attacher à continuer mes recherches à ce sujet. Vous remercie.
Merci beaucoup, madame. Madame Migaud.
Oui, merci, monsieur le maire.
Chronométrons, madame Migaud.
Je voudrais m'attacher surtout
le chronomètre en route, là. Il ne marche plus ? Voilà.
Je voudrais surtout m'attacher à ce qui est repéré par la pastille verte dans le document qui nous a été remis. La pastille verte, c'est ce qui permet, c'est les actions qui renforcent les liens sociaux et intergénérationnels. Donc, en tant qu'adjointe chargée des seniors et du handicap, j'ai fait plus attention aux pastilles vertes qu'aux autres. Et notamment, je voudrais dire que l'intergénérationnel, ça ne va pas de soi. Même si on trouve de l'intergénérationnel, c'est le fruit d'une gestion intelligente de nos moyens, comme par exemple l'utilisation des foyers logements pour faire manger les enfants, ou bien le partage de la résidence grand maison en logement pour nos seniors et en logement pour de jeunes professionnels, ça ne suffit pas. Il y a des espaces et des temps qui sont propices à l'intergénérationnel, mais pour pouvoir voir se développer l'intergénérationnel dans ces espaces et ces temps propices, eh bien, il faut absolument développer l'accessibilité. Alors, c'est les rues, c'est les trottoirs, c'est nos jardins, qu'ils soient publics ou privés, c'est nos logements, le milieu professionnel aussi est concerné. Tout cela doit être rendu accessible pour vraiment favoriser l'intergénérationnel. On commence, il y a encore du travail à faire, mais on est sur la bonne voie. Je voudrais encore souligner autre chose par rapport... Alors, je disais tout à l'heure que le trottoir était un lieu propice à l'intergénérationnel. Et je salue le travail qui est fait, par exemple, lors du challenge piéton pour initier les enfants à la bonne circulation à pied dans la ville. Mais je crois qu'il va falloir aller plus loin et faire un code des bonnes conduites de l'utilisation des trottoirs, parce que maintenant, c'est un espace qui est partagé non seulement par les piétons, mais aussi par les cyclistes. Et je crois qu'il faut développer chez tous ceux qui circulent sur ces trottoirs la conscience que cet espace est partagé et les rendre attentifs aux difficultés que peut rencontrer l'autre. Vous avez des personnes âgées sur les trottoirs qui sont parfois sourdes et qui, vous avez beau les klaxonner, elles n'entendent pas. Mais vous avez aussi des jeunes qui ont leur Walkman, enfin, c'est plus des Walkman, maintenant leur MP3 dans les oreilles et qui n'entendent pas non plus. Ou bien les gens sont la tête penchée, ils ne regardent pas du tout où ils vont et ils regardent leurs écrans. Et donc, il peut y avoir des dangers nouveaux de l'utilisation du trottoir. Donc je pense que c'est un travail auquel on va s'attacher, et je pense que Guy Cambianica, avec le plan piéton, pourra travailler là-dessus. Et il ne faut pas seulement que ce soit les enfants qui se munissent de ce nouveau code de conduite, mais aussi les piétons de tous âges.
Merci. Voilà. Merci. Madame Kosik.
Hein, 30 secondes.
Non.
J'ai l'esprit de synthèse.
La majorité à 9 minutes, on y va.
Ah oh, bah alors.
Voilà.
Eh oui, il faut allons-y. Quelques privilèges, alors. Monsieur le maire, chers collègues, bien sûr, nous sommes fiers que la France soit le pays qui accueille la 21e conférence sur le climat. Bien sûr, nous sommes fiers des différents prix et distinctions qui honorent la ville, qu'il s'agisse du label Éco-Réseau de chaleur, du prix Énergie citoyenne ou des différentes certifications qui reconnaissent les performances de nos bâtiments ou la qualité de service dans la participation des usagers. Mais au-delà de tout ça, je crois, en tout cas, moi, je suis d'abord fière de la prise en compte quotidienne des actions conduites par chacun des services et qui font finalement de notre ville une cité qui se développe dans le respect d'un certain nombre de valeurs que nous partageons tous. Ces valeurs, mes chers collègues, elles sont inscrites dans ce que nous appelons une politique responsable, dans la gestion de notre patrimoine, dans le développement de notre réseau de chaleur, dans notre engagement au service du commerce équitable, mais aussi dans ce qu'il y a de plus sensible, de plus complexe dans les relations humaines à travers la lutte contre les discriminations. Ces valeurs, mes chers collègues, nous les retrouvons dans notre volonté de développer des jardins familiaux ou partagés, de lutter contre l'habitat dégradé ou de soutenir les écoles dans leurs projets d'éducation à l'environnement en partenariat avec le tissu associatif. Ce rapport qui nous est présenté illustre le fait que ce changement dont nous parlons tous ne se limite pas finalement à des postures idéologiques ou au discours de tel ou tel parti politique, qui ne concerne pas d'ailleurs que des experts, mais qu'il appartient bien à chacun d'entre nous d'apporter sa contribution parce que, comme le souligne un certain François, mais ce n'est pas le même que celui de M. Gourlot, il y a urgence à défendre la maison commune.
Merci. Monsieur Belhadad.
Oui, merci, monsieur. Il y a souvent une erreur qui est faite. L'enjeu, ce n'est pas de sauver la planète, hein, c'est de sauver notre espèce. Hein. Mes chers collègues, je voudrais bien entendu saluer tous les efforts faits par notre majorité en matière de développement durable dans tous les secteurs de la vie quotidienne de nos concitoyens. Alors, je voudrais mettre l'accent sur trois points. Sur les comportements, sur les rapports Nord-Sud et sur le vivre ensemble qui vient d'être indiqué à l'instant. Sur les changements de comportement, ce sera l'un de nos défis majeurs. Et c'est celui le plus important parce qu'il est bien évident que si les usages ne s'adaptent pas au nouveau contexte, on aura beau isoler tous les bâtiments que l'on veut, si certains de nos concitoyens continuent à se chauffer à 22 ou 23 degrés, ce sera quand même assez compliqué d'atteindre nos objectifs à la fois locaux et nationaux. Ensuite, le développement durable, et ça a été dit, et c'est une collectivité exemplaire, la préservation de l'environnement, les ressources pour les générations futures, le développement d'une ville harmonieuse. Mais c'est aussi le développement, c'est aussi la solidarité entre territoires et pas uniquement ici. Je veux parler des rapports Nord-Sud et l'actualité des migrants en est une parfaite illustration. Cette solidarité doit se faire par un accueil de ces migrants, comme c'est le cas actuellement. Alors, celle-ci aussi peut s'exprimer à travers d'autres actions. Tout le monde a entendu parler du plan d'électrification de l'Afrique, soutenu très récemment par le Sénat. Je ne sais pas si Jean-Louis Masson l'a soutenu ou pas. Considérant que la fracture énergétique qui demeure entre l'Europe et l'Afrique, particulièrement dans le domaine de l'électrification, dont l'insuffisance conduit à l'exclusion de plus de 600 millions de personnes des flux économiques mondiaux associés à la révolution démographique en cours sur l'ensemble du continent africain, serait particulièrement préjudiciable à notre continent et à notre pays dès lors que rien n'est fait pour la résorber. Et je ne parle pas des flux migratoires à venir liés au dérèglement climatique. Pour votre information, je rencontre prochainement le président de la Fondation Énergie pour l'Afrique, Jean-Louis Bourlot, pour lui présenter un plan d'électrification d'un village dans le sud marocain qui ne dispose pas de lumière. Ce projet sera mené par 4 jeunes messins que j'accompagnerai puisqu'ils vont d'abord participer au prochain Marathon des Sables, donc la course la plus difficile au monde, comme vous le savez, qui aura lieu du 8 au 18 avril 2016. pour que justement cette traversée du désert ne soit pas un grain de sable perdu au milieu de l'immensité, l'objectif principal sera l'électrification d'un bâtiment scolaire en mettant en œuvre une installation photovoltaïque. Il s'agira aussi de former un technicien à la maintenance de l'installation électrique. Ce projet est une contribution très modeste à cette ambition, avec une dimension sociale et une application de notre jeunesse. Le troisième point concerne le développement durable à travers sa dimension du vivre ensemble, mis à mal récemment par des propos inacceptables de la part d'élus de la République. Je voudrais revenir sur les propos racistes, je dis bien racistes, du sénateur Jean-Louis Masson, puisqu'il s'agit bien d'une remise en cause de ce savoir vivre ensemble. L'immigration d'aujourd'hui, ce sont les terroristes de demain. Comment peut-on tenir de tels propos ? On ne peut pas laisser cette idéologie réactionnaire sans la démonter. Et je voudrais prendre un exemple, celui de la division SS Charlemagne qui fut créée en juillet 1944. Elle rassemblait quelque 7000 Français, très jeunes et principalement ruraux, partis se battre pour aider l'occupant nazi sur le front de l'Est contre l'armée soviétique. Évidemment, ils étaient bien trop peu nombreux pour que l'on puisse en déduire des tendances SS chez la jeunesse française de l'époque, ou même une nazification de nos campagnes. De fait, personne n'alla bien entendu soutenir après-guerre un raisonnement aussi stupide tel qu'on l'a entendu au Sénat très récemment. Alors il y en a marre, et je le dis très fortement, de ces réactionnaires racistes, narcissiques, des maçons, Morano ou Finkielkraut, qui essayent de nous faire croire que tous les immigrés ou les jeunes des banlieues, et en particulier de l'immigration récente, sont tous des djihadistes en puissance, incultes, drogués, violents ou paresseux. Car ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Je ne vais pas vous citer toutes les personnes illustres qui ont beaucoup apporté à la France, de Gaston Monnerville, président du Sénat sous De Gaulle. Je tiens à préciser qu'il est noir, hein. Il n'est pas de race blanche. Hein. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, du photographe iranien Abbas, Antoine Sfer, de Zinedine Zidane ou du talentueux violoniste Ibrahim. Je recommande d'ailleurs à M. Masson de lire le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France de Pascal Horry, car tant il est vrai que l'ignorance, la sottise et la lâcheté sont les trois plus redoutables ennemis du genre humain. Alors les méthodes du sénateur Masson, on les connaît à Metz. Elles ne sont pas uniquement le reflet d'une pensée raciste, propos presque identiques il y a quelques années, mais elles sont aussi digne de voyous. À titre d'exemple, tout le monde se souvient qu'il a fait rédiger en 1983 un faux tract autodiffamant dont il a cherché à attribuer la paternité à Jean-Marie Roche, avant que le poteau rose ne soit découvert. Et ensuite, ce monsieur vient nous donner des leçons pour savoir qui est bien ou qui n'est pas bien dans notre société. Je vous avoue être, monsieur le maire, mes chers collègues, très inquiet, mais vraiment très inquiet de ce type d'agissement qui se banalise du matin au soir et qui menace notre République et notre vivre ensemble. On ne laissera plus rien passer. À bon entendeur. Merci pour votre attention.
J'ai oublié de donner la parole à M. Cambianica.
Merci, monsieur le maire. J'essaierai d'être bref.
Oui. Soyez-le, s'il vous plaît.
Voilà. Quoique dans l'opposition, on s'acharne à tenir sa lorgnette à l'envers et à accumuler des approximations. Je pense, par exemple, lorsque l'on cite le métis sans citer l'économie qui est faite parce qu'il y a moins de véhicules en ville. Hein ? Donc, il faut savoir aussi additionner les chiffres. Nous devons saluer l'engagement sans ambiguïté de la ville de Metz dans le développement durable et sa transversalité ainsi que son pragmatisme. Je rappelle, social, environnement et économie. C'est pourquoi j'appelle de mes voeux le renforcement des politiques propres à soutenir l'investissement, à soutenir et à développer l'investissement dans l'isolation des logements, en particulier dans les logements anciens. Je veux souligner, comme le précise ce rapport, que la promotion des modes de déplacement doux va dans ce sens également. Pour l'environnement, par la limitation de l'utilisation des énergies fossiles. De l'économie, par la remise en perspective de l'accessibilité des commerces de proximité à chaque fois que les trottoirs sont mis en norme, aux normes d'accessibilité pour l'ensemble des usagers. La santé, par la limitation des émissions de particules fines et de CO2. Sociale, par la facilité apportée aux rencontres. Nous devons aller plus loin, comme l'a souligné Agnès Migaud, en particulier en portant un regard et une action novatrice sur l'urbanisme. Nous devons, par exemple, nous préoccuper du dernier kilomètre qui est porteur de nombreuses économies d'énergie et de nombreuses économies de particules dangereuses pour la santé. Merci. Je vous remercie.
Merci. Eh bien, écoutez, je vous remercie de ce pas de vote, puisque c'est un rapport annuel sans vote.